Mon message d'aujourd'hui s'intitule « Jésus, est-ce que je le vois clairement? » Alors, c'est ça, on est déjà le 26 mars et partout dans le monde chrétien, on approche de Pâques, comme Bill a dit tantôt, oui, et ça a été confirmé par nos annonces. Certains appellent cette période de préparation le carême. Peu importe ce qu'on l'appelle, c'est une occasion dont plusieurs églises profitent pour prendre le temps d'apprécier davantage ce que Jésus a accompli pour nous et qui il est vraiment dans sa mission pour notre salut. Donc, c'est un bon moment de nous poser la question, est-ce que je comprends vraiment qui est Jésus? Est-ce que je le vois clairement tel qu'il est ou est-ce que mon focus est mal réglé? Alors, aujourd'hui, on va parler de focus et de Jésus. Ces temps-ci, j'ai un petit projet personnel pour aiguiser mon focus. Ce petit projet, c'est je médite sur l'histoire de la passion de Jésus. Ça, c'est dans l'Évangile de Matthieu, c'est les chapitres 26 et 27 au complet. 28, il ressuscite. Ça, c'est je vais venir à ça un petit peu plus tard, mais je médite un petit bout des chapitres 26 et 27 à tous les matins. Et en fait, c'est en musique. Parce que Johann Sebastian Bach, il a écrit un oratorio qui s'appelle « La Passion selon Saint Matthieu ». Il a pris le texte de Matthieu 26 et 27, il l'a découpé, puis il a écrit un oratorio qui est à peu près 2 heures de long. Eh bien, chaque petit bout, c'est un morceau du texte de la Passion. Et j'ai trouvé une version vidéo avec des sous-titres en français parce que Bach, lui, il a pris les paroles en allemand. C'est pas de sa faute, c'était un Allemand. Mais c'est vraiment bon pour ceux qui aiment la musique classique. Et ça va lentement, ça me permet de méditer et de me souvenir des petits détails de ce qui s'est passé pendant cette dernière semaine à Jérusalem. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le lien, écrivez-moi. Alors, on peut faire des projets personnels, mais dans l'Église, en tout cas, comme Mylène a dit, on a des choses qui se préparent et les trois prochains dimanches, y compris celui-ci, on va avoir des messages sur des textes qui nous ramènent dans qui est Jésus, pourquoi il est venu et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a accompli sa mission et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Aujourd'hui, l'histoire d'une guérison, la guérison d'un aveugle, comment on dit aujourd'hui? Un malvoyant? Est-ce qu'on peut dire aveugle? Est-ce que c'est encore accepté? La guérison d'une personne aveugle par Jésus. Et cette histoire, Jésus nous parle à travers cette histoire à plusieurs niveaux, mais notamment il nous dit, laisse-moi t'ouvrir les yeux. À toi aussi. Laisse-moi t'ouvrir les yeux à toi aussi, toi qui écoutes, toi qui lis, pour que tu comprennes qui je suis et pour que tu comprennes vers quoi je t'appelle. Alors, laisse-moi t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes qui je suis et vers quoi je t'appelle. Avant de continuer, on va prier, puis on va lire le texte aussi. Le texte de cette guérison. Oui, Seigneur, nous venons à toi et je veux vraiment que tu disposes mon cœur, que tu disposes notre cœur à être humble et simple devant toi. Tout l'Évangile nous montre que on peut peut-être s'enthousiasmer de Jésus, mais Jésus nous dit, attends, est-ce que tu comprends vraiment pourquoi je suis venu et dans quoi je t'invite? ça va être bon pour toi, ça va être merveilleux, ça va te donner la vie éternelle, mais prends le temps de comprendre toute l'ampleur. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs et par le Saint-Esprit, parle-nous et visite-nous ce matin. Visite-nous, nous allons aussi prier pour des personnes demandant l'aide de guérison pour leur santé. Un peu plus tard, visite-nous, Jésus. Nous prions au nom de Christ. Amen. Alors, voici le texte de cette guérison qui est dans Marc 8. On s'approche de la dernière partie de la vie de Jésus. Il est toujours en Galilée, mais bientôt, il va se mettre en direction de Jérusalem, où il va vivre sa passion. Mais pour le moment, voici ce qui se passe, c'est qu'il est avec ses disciples, toujours pas loin du lac de Galilée, dans le nord. Et ils se rendirent, nous dit le texte, donc c'est Marc 8 à partir du verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda, un village sur le lac. Et on amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Il posa les mains sur lui et lui demandait s'il voyait quelque chose. Il regarda, c'est-à-dire l'homme aveugle, regarda et dit, « J'aperçois les gens, mais je les vois comme des arbres et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en lui disant, « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Souvent dans un message, la partie la plus importante, c'est de lire le texte de la parole de Dieu puis de bien l'écouter. Mais quand même, écoutez-moi maintenant, j'ai des choses à dire pour expliquer. En méditant ce passage cette semaine, le Seigneur m'a fait comprendre que l'aveugle, en réalité, c'était moi. Puis que par sa parole, progressivement, j'en venais à voir Jésus de plus en plus clairement. Et j'aimerais partager avec vous trois choses que cette histoire m'a enseignées sur Jésus et sur sa mission. À trois niveaux différents, des choses importantes pour ce temps de Pâques, ben, pour tous les temps de nos vies. Alors, trois choses, cette histoire nous enseigne. Ben, premièrement, au niveau premier, Jésus a la puissance de guérir. Il a la puissance de guérir les corps et les esprits qui sont malades. Et en fait, même jusqu'à aujourd'hui. Tout le Nouveau Testament nous dit que depuis que Jésus est venu, nous sommes dans les temps où le règne de Dieu ou le royaume, on peut dire les deux, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, est à l'œuvre dans le monde, autour de nous et en nous et dans le monde entier. Et en fait, l'autre chose qui est intéressante, on va parler de mission. Timothée vient de vivre une expérience de mission intense. Le Seigneur Jésus continue à envoyer des missionnaires dans le monde vers des peuples pas très atteints par l'Évangile ou pas du tout atteints. Et le royaume de Dieu continue à avancer invisiblement, mais par l'entremise de leur présence, de leur déplacement. C'est merveilleux. Et c'est Jésus, en venant, qui a inauguré cette venue du royaume. Jésus est roi, Jésus sauve, Jésus instruit, Jésus corrige et aussi Jésus guérit. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte. Et il guérit encore aujourd'hui. Ça a été annoncé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes parlaient des derniers temps, dans ces temps où le Messie viendrait et inaugurerait la fin. Par exemple, Ésaïe 35, versets 5 et 6, il y a une prédiction prophétique par Ésaïe, Ésaïe 35, 5. « Les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf, C-E-R-F, et la langue du muet lancera des cris joyeux. » On voit des miracles comme ça dans le Nouveau Testament. On continue de prier pour des miracles comme ça alors qu'on annonce l'Évangile et qu'on vit la vie chrétienne ensemble. La Bible nous dit, comme j'ai dit, qu'après la venue de Jésus, le règne de Dieu continue à avancer. Et nous le voyons seulement en partie, ce règne. Et nous voyons Jésus seulement, il est vraiment là, mais on peut dire de manière voilée. Il est présent parmi nous. Quand il va revenir pour juger les vivants et les morts, dans ce dernier jour glorieux, on va le voir clairement. Et on va voir sa royauté clairement et on va vivre dedans pour toujours. J'espère que nous avons hâte pour cela. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Je commence à trouver le temps long. J'ai seulement 61 ans, mais franchement, quelqu'un me disait, l'être humain, comment il m'a dit ça, l'attente de durée de vie pendant des millénaires, c'était à peu près 35 ans pour un être humain. Alors nous vivons une époque où on double ça et même on le triple. Et donc, c'est merveilleux, mais on peut commencer à avoir hâte pour le royaume de Dieu. En tout cas, on continue de travailler, puis on a hâte en même temps. Et aujourd'hui, les miracles, les visions, les guérisons continuent à jouer un rôle dans le plan de Dieu. Elles servent surtout à aider les gens à croire afin de rentrer dans le royaume. Elles servent surtout à mieux comprendre Jésus et s'accrocher à lui. Donc, c'est pas le but ultime de l'Évangile que les gens soient guéris physiquement ici et maintenant. Il est prévu que tout le monde d'entre nous, on va mourir à un moment donné. Mais Jésus nous promet qu'il va accompagner l'Évangile avec des guérisons, avec des prodiges, avec des songes, avec des signes. Et c'est aussi parce qu'il nous aime et il connaît nos souffrances. Mais c'est jamais magique ou automatique. Et lorsqu'il donne une bénédiction qui est une guérison, évidemment, ça crée une joie extraordinaire. On voit que le boiteux, lui, quand il est guéri, il commence à sauter comme un cerf. Un cerf, ça saute très haut. Et en même temps, c'est juste un avant-goût de la guérison totale qu'on va recevoir quand Jésus va ressusciter nos corps pour le royaume éternel. Amen. C'est juste un avant-goût et on se prépare pour cette guérison qui est garantie, elle, et qui sera totale et qui va nous camper, nous mettre dans un corps immortel et parfait. Jésus règne aujourd'hui. Il a la puissance de guérir entre ses mains et il nous invite, même ce matin, à lui demander. des guérisons. Et c'est ce que nous allons en parler un petit peu plus tard et même donner l'occasion à ceux qui le désirent qu'on prie pour vous ce matin. Parce que c'est ça, Jésus a la puissance de guérir, même aujourd'hui. On va aller à une deuxième chose qu'on remarque dans cette guérison qu'on a lue, cette guérison de l'aveugle de Bethsaïda. Chaque guérison est différente. Oui, cette histoire nous montre que chaque guérison opérée par Jésus est unique. C'est vrai que d'un côté, les guérisons de Jésus ont des points communs, elles se ressemblent toutes à un certain niveau. Il y a des constantes. Par exemple, on voit que Jésus, quand il décide, il veut vraiment répondre à la demande des gens et imposer les mains à cet aveugle, eh bien, il va faire quelque chose de surprenant. Il va éloigner cet homme de la foule. Il va le sortir même du village. Puis ça, c'est quelque chose que Jésus fait régulièrement. Il veut, souvent, il veut guérir d'une manière discrète. La raison qu'il fait ça, il prend la précaution d'empêcher que les guérisons deviennent le focus principal de son ministère. Parce que les gens aiment ça. Les gens trippent là-dessus. Et puis, ils vont l'inviter juste pour ça. Et Jésus fait très attention. Et des fois, il va prendre des précautions pour juste garder les choses équilibrées. Jésus guérit, comme j'ai dit tantôt, pour que les gens croient et soient sauvés et entrent dans le royaume. C'est ça le but, vraiment le but. Et on voit cette précaution ici, c'est une des raisons probables pour laquelle il sort l'aveugle de la foule. D'un autre côté, il y a des choses plus rares dans cette guérison-là. Je dirais rare et bizarre. L'affaire de la salive, l'affaire du crachat, c'est étrange. C'est bizarre. En réalité, c'est pas la seule fois. Justement, dans cette partie de l'évangile de Marc, il y a deux guérisons où Jésus va utiliser sa salive. Berk, excusez-moi, là, mais c'est comme... Mais bon... Il y a quelque chose qui se passe ici parce qu'il y a la guérison d'un malentendant. Un malentendant qui a de la misère à parler, on l'amène à Jésus et c'est juste un petit peu avant cette guérison de l'aveugle dans un autre village. Jésus va, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses doigts, il va les mettre dans les oreilles du malentendant avant de prier. Et il va ensuite prendre de la salive, puis toucher la langue du gars. C'est quand même bizarre. Alors, c'est intéressant que ces deux miracles-là, Jésus utilise sa salive. Alors, j'ai lu cette semaine que Michel a un petit rire. Est-ce que tu as déjà utilisé ta salive dans des prières? Non? OK. Pour prêcher, oui, ça c'est un accident. Oui, c'est ça. On apprend que c'était des pratiques des guérisseurs juifs, des responsables religieux qui priaient pour les malades, utilisaient dans cette culture-là, et Jésus était dans ce contexte-là, comme aussi l'imposition des mains, ça vient des Juifs, l'imposition des mains que nous utilisons encore aujourd'hui, et aussi, en passant, j'ai avec moi une petite fiole d'huile. Ça aussi, c'est une pratique qui vient des Juifs. Quand on prie pour les malades, on peut demander l'onction d'huile ou on met un peu d'huile sur le front de la personne. Donc, Jésus prend des pratiques de son contexte. Ici, c'est l'utilisation de la salive et l'imposition des mains et les pratiques ici. Alors, il y a des significations symboliques à ces gestes bizarres. pour aider la personne pour qui on prie à entrer personnellement dans la prière pour son corps. C'est comme si tu impliques la personne. D'un côté, la personne connaissait ces pratiques-là, puis ça pourrait la rassurer, ça pouvait l'entrer dans un contexte familier. C'est comme si Jésus entrait dans la culture religieuse de la personne, crée une relation, crée une confiance. Alors, mais on voit que c'est pas automatique, il le fait pas à chaque fois, puis c'est juste deux fois qu'on le voit ici. Et donc, c'est au cas par cas. C'est pas des gestes obligatoires. Je pense que c'est ça qui est important à dire. Quand on regarde le ministère de Jésus, il y a des constantes, mais à chaque situation, il va varier sa méthode. Il y a des fois où il insiste pour toucher la personne. Il y a des fois où il guérit à distance. Il y a des fois où il guérit avec des paroles. Il y a des fois où il guérit par le silence. Il y a même une fois où il y a une femme qui voulait être guérie et Jésus est en plein dans une foule et elle vient toucher son vêtement. Et lui, il regardait dans l'autre direction. Et la femme a été guérie. Puis Jésus a ressenti quelque chose. Il dit, il y a une force qui est sortie de mon corps. C'est comme ça qu'il le dit. Et cette femme a été guérie d'une maladie très grave. Alors, c'est pas des gestes magiques ou automatiques, mais on voit que le Seigneur s'adapte à la personne. Maintenant, dans ce miracle-ci, il y a quelque chose qui arrive seulement ici, dans tous les évangiles. Autant qu'on voit, c'est la seule fois où Jésus fait une guérison progressive. Progressive parce qu'elle, vous avez remarqué, elle se fait en deux étapes, avez-vous remarqué? L'affaire des arbres, ça c'était comme deux étapes. Elle se fait premièrement, vous avez compris. La guérison, elle est interactive, comme j'ai dit. Jésus implique la personne, sa foi, puis ses réponses. Et cela donne un rythme unique à cette guérison. Et puis, Jésus va poser une drôle de question qui est unique, je trouve, dans les guérisons de Jésus. Il dit, littéralement, on traduit, c'est écrit, il dit au malade, si tu vois quelque chose, donc c'est dans le sens, est-ce que tu commences à voir quelque chose? C'est là qu'il va parler des arbres, là. Donc, c'est comme si Jésus avait une hésitation sur l'efficacité de la guérison. C'est quand même assez bizarre. En fait, ce serait peut-être que Jésus avait une hésitation sur là où en était la personne pour qui il priait, où en était sa foi, est-ce qu'il comprenait ce qui se passait. Donc, lorsque tu demandes une guérison pour toi-même ou que tu en demandes une pour quelqu'un d'autre ou que tu pries pour quelqu'un, parce que tu as le droit de le faire, et nous le faisons, je pense, beaucoup d'entre nous, on prie pour nos amis qui sont malades, il faut toujours se souvenir que chaque guérison est différente et surtout que Jésus est souverain dans chaque situation. Il est le boss. C'est lui qui décide ce qui va arriver ou non, quand ça va arriver et comment. OK? Donc, la chose la plus importante quand on prie pour une guérison, c'est de croire que Jésus, non seulement est puissant, mais aussi qu'il est en charge. Et donc, on l'invite à venir s'exprimer, à venir montrer son amour tel que lui le veut. Troisième et dernière chose que j'ai vue dans ce texte, Jésus veut que je voie qui il est vraiment, moi aussi. Cette histoire nous enseigne que notre besoin le plus important, c'est de comprendre qui il est vraiment et dans quoi il m'invite. Hein? Parce qu'on va voir que Jésus m'invite dans le salut, mais il m'invite aussi dans une nouvelle sorte de vie. Moi et toi. Parce qu'en fait, cette guérison, Jésus l'a fait pour aider ses disciples à comprendre sa vraie identité. Ça, on le voit dans la manière que Marc a écrit son évangile. Et cette manière hésitante et progressive de guérir l'aveugle correspond à la manière que les disciples de Jésus sont en train de réaliser progressivement qui il est. Et c'est seulement lorsqu'ils comprennent pourquoi il est venu qu'ils vont vraiment être sauvés. Puis c'est la même chose pour nous. Juste avant cet épisode, Jésus est avec les disciples dans une barque. J'ai fait une fausse manœuvre. Voilà. Jésus était avec eux dans une barque et puis il exprime sa frustration parce que eux, et ça fait peut-être 2 ans qu'ils sont à son école, ils vivent avec lui, ils font du ministère avec lui, et ils comprennent toujours pas. Et Jésus se frustre et il leur dit ceci, c'est quand même intéressant. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Comment se fait-il que vous ne comprenez pas encore? Après ça, il va guérir l'aveugle à Bethsaïda, on l'a lu. Et tout de suite après, Marc raconte que Jésus va poser une question aux disciples qui sont toujours, on a compris, s'ils sont bouchés, là, ils sont des aveugles spirituels. Puis en même temps, plus on lit, plus on se rend compte. Moi, je fais partie d'eux autres. Et Jésus demande aux apôtres, « D'après vous, je suis qui, moi? Qui dites-vous que je suis? » Et c'est comme s'il leur demandait, « Commencez-vous à voir quelque chose? » Puis là, finalement, les disciples montrent qu'ils commencent à comprendre quelque chose. Pierre prend la parole en leur nom et dit, « Tu es le Messie. » On croit ça, nous autres. Tu es le Messie. Il commence à voir. C'est vraiment important de reconnaître que Jésus est celui prévu de tout temps par l'Éternel pour venir et sauver Israël. Mais en réalité, Jésus comprend vite que c'est seulement un commencement de guérison. Il voit un arbre qui bouge. Parce que quand Jésus leur explique la leçon 2, le chapitre 2, ça va quoi être le vrai contenu de sa mission? Hein? Il s'en va vers Jérusalem, il s'en va vers son arrestation. Eh bien, les disciples se tournent, on va dire, contre son idée et s'opposent à lui d'une manière assez féroce. Je vous lis ce qui s'est passé. Donc, Pierre vient de dire, nous, on croit que toi, tu es le Messie. Et alors, Jésus va commencer à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme, ça, c'est un terme que Jésus s'approprie à lui-même et qui connecte avec l'idée de Messie. C'est intéressant parce que les prophètes parlent de ces choses de manière séparée. Puis Jésus, il rend clair que c'est la même personne. Puis en fait, c'est lui. Il est le Messie, il est aussi le Fils de l'homme. Puis en plus, il est le Fils de Dieu. Ça, c'est une autre affaire qui s'en vient. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Oh! Il faut qu'il soit rejeté par les anciens du peuple. Oh! Par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi. Qu'il soit mis à mort, oh, et qu'il ressuscite 3 jours après, quoi? il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre se mit à le prit à part et se mit à le reprendre, mais le verbe est plus fort que ça, c'est à le confronter. Jésus l'a comme, viens à part avec moi, il faut que je te parle dans le casque, ça marche pas ton plan. Mais Jésus, lui, se retourna, regarda ses disciples et il va réprimander Pierre à son tour. Pierre, tu veux me parler dans le casque? Mais laisse-moi te parler dans le casque. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ici, Pierre, c'est pas Satan, mais Pierre est influencé par la manière de penser de Satan, qui ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, c'est intéressant. C'est-tu Satan? C'est-tu les hommes? C'est-tu Pierre? L'ennemi est à l'œuvre pour briser, pour empêcher le plan de Jésus. Et il influence les hommes, il influence les sociétés. Et maintenant, il est en train d'influencer Pierre. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Oui, qu'il se charge de sa croix. Donc, c'est une image. Donc, eux, ils savaient ce que c'était parce que la croix, c'était c'était un châtiment public pour les criminels. Et donc, une des choses qu'un disciple de Jésus doit accepter, c'est disons, d'être mal vu dans la société parce qu'on témoigne de Jésus-Christ. Oui. De la même manière que lui a été rejeté, mis sur une croix, nous, il faut qu'on s'attende à avoir de l'opposition et même souffrir. Donc, c'est un rappel important. Merci d'avoir posé la question. Et c'est parce que Pierre aimait pas l'idée qu'il a dit à Jésus pour lui-même. Non, on veut pas que tu sois crucifié. Moi, je veux pas être associé à ça. Changeons le projet. Mais il fallait que le projet aille de l'avant. Donc, Jésus a porté sa croix et nous devons embarquer là-dedans avec lui. Il y a un sens où on dit, il est allé à la croix pour que nous, on ne doive pas y aller. C'est vrai. Merci Jésus. Puis il y a un autre sens où il dit, j'ai porté la croix et vous aussi, vous aurez votre croix à porter dans le sens que vous allez être mes témoins. Puis ça ne sera pas toujours facile. Mais quelle souffrance pour Jésus à ce moment-là que... non seulement il se prépare seul pour aller jusqu'à la croix où il va mourir seul, mais ses amis les plus proches qu'il a recrutés en partie pour le soutenir, ils s'opposent à lui, ils comprennent rien. Et pour le moment, mais c'est un chemin nécessaire. Mais Jésus, il est tellement plein d'amour et il va profiter de l'occasion pour les instruire, les corriger, et continuer à leur montrer le chemin. Ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fin de l'évangile de Marc, on voit des individus réaliser qui Jésus est vraiment et pourquoi c'était nécessaire qu'il meure sur la croix. Et en le reconnaissant, ils sont sauvés. Alors, ils ne sont pas nombreux dans l'évangile de Marc, on va voir qu'ils vont être beaucoup plus nombreux dans le livre des Actes, mais déjà, il y a au moins un individu dont on raconte l'histoire. Imaginez que c'est l'officier romain qui a présidé, qui a donné les ordres pour la crucifixion, pour la torture de Jésus. C'était sa job, il recevait des ordres, et il était là, et à un moment donné, pendant que Jésus est justement en train de souffler son dernier souffle, il regarde. Et voici ce qui est écrit. Jésus poussa un grand cri et expira. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Wow, quelle réalisation! Et donc, pour conclure, mes frères et sœurs, qui que tu sois, toi qui m'écoutes, c'est le moment de reconnaître que toi aussi, tu as besoin d'être guéri de ton aveuglement spirituel. Tu as besoin de voir Jésus tel qu'il est vraiment. Pas d'une manière floue, selon tes préjugés, mais Jésus tel qu'il veut que tu le connaisses. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Jésus de te révéler à toi du haut de sa croix. J'ai même une image de croix ici pour vous ce matin. Comme il l'a fait pour l'officier romain, en comprenant que Jésus est cloué à la croix pour toi, et il est là à ta place parce que toi, tu aurais dû y être à cause de ta séparation avec Dieu. Mais là, tu vas commencer à comprendre comment Dieu te comprend pour qu'ensuite il puisse t'ouvrir la porte vers cette nouvelle vie avec lui qu'il a prévue pour toi. Amen. Alors, on va entrer dans un temps de prière ensemble. J'ai dit que Jésus est présent parmi nous. Le ressuscité, tout pouvoir a été mis entre ses mains. Il peut faire pour toi de très grandes choses ce matin. On va avoir deux temps de prière ce matin. Un pour ceux qui aimeraient demander la guérison physique. Et ensuite, un temps de prière pour ceux qui aimeraient voir Jésus plus clairement. OK?